Et oui, je reçois Agathe Roby, elle est docteure en histoire médiévale, chercheure associée à l'université Toulouse Jean Jaurès. Elle vient de publier un livre absolument passionnant dont je recommande la lecture. Il est intitulé « La prostitution au Moyen-Âge, le commerce charnel en midi toulousain du XIIIe au XVIe siècle ». C'est aux éditions Loubatière. Alors au-delà de l'étude fouillée de la prostitution, l'intérêt du livre réside aussi dans l'examen extrêmement minutieux qu'il fait de la vie au Moyen-Âge. Bonjour Agathe Roby.
Bonjour.
Alors j'ai envie de vous dire bravo, mais je vous le dis quand même, bravo. Merci. Parce que ce livre est vraiment intéressant et vous venez de m'apprendre qu'il était en fait l'essentiel de votre thèse, mais ça se lit, on ne le lâche pas en fait, hein. C'est truculent, je le dis à l'intention de nos auditeurs, il y a beaucoup d'anecdotes, ça fourmille d'exemples, et puis l'intérêt c'est qu'il est vraiment ancré sur notre territoire, hein. On retrouve à chaque page, on est à Pamiers, on est à Cordes, on est à Montauban, on est chez nous quoi. Mais alors il y a quand même une question qui se pose, Agathe Roby, c'est tout de même, hein, c'est curieux, et puis en plus on est sur une antenne chrétienne, hein. Un intérêt pour la prostitution au Moyen-Âge, pourquoi ?
Alors cet intérêt pour l'histoire de la prostitution, il est double. Alors il vient déjà d'un intérêt pour l'histoire des femmes et aussi pour l'histoire urbaine, l'histoire des villes. Et donc la prostitution se retrouve un peu à la croisée de ces thématiques-là. Et ensuite parce que la sexualité, l'étude de la sexualité, c'est pas simplement étudier la sexualité, pour son aspect peut-être un peu frivole, mais parce que c'est un sujet qui permet d'analyser la société en profondeur. C'est quand on travaille sur l'histoire de la sexualité, on peut à la fois travailler sur l'histoire politique, sur la manière dont les pouvoirs vont gérer les corps des populations qu'ils encadrent. On peut travailler sur l'organisation de la ville, pourquoi on va mettre des espaces de prostitution à un endroit et non à un autre. On peut aussi travailler sur l'histoire des hommes et des femmes qui vivent dans les villes. Et donc, voilà, cet intérêt vient de ces trois points-là. Et puis, il y a autre chose, c'est que quand j'étais en licence, on m'a proposé de faire une fiche sur un livre de Jacques Rossio, qui a maintenant une trentaine d'années, qui a travaillé sur la prostitution à Lyon, en tout cas dans la région aux alentours de Lyon, et j'ai été complètement frappée par l'organisation de la prostitution au Moyen-Âge, parce que ça allait complètement à l'encontre de tous les stéréotypes qu'on peut avoir et que j'avais à cette époque sur le Moyen-Âge. On pense que le Moyen-Âge, c'est quelque chose, une époque très chaste, une époque peut-être un peu triste. Et en fait, cette organisation de la prostitution, elle va complètement à l'encontre de ces idées reçues. Et donc, ça m'a frappée et ça m'a donné envie de travailler sur ce sujet quand je suis rentrée en recherche.
Alors, aux oreilles un peu chastes et prudes, hein, d'ailleurs, qui nous écoutent, hein, je précise qu'il n'y a aucune anecdote ou détail sordide ou un petit peu déplacé, hein, dans cet ouvrage.
Non,
on rentre pas du tout dans le détail des pratiques, dans des histoires de position et compagnie. C'est pas du tout de ça qu'on parle ce matin, hein, ensemble. Alors, la prostitution au Moyen-Âge, on peut le comprendre. Vous nous le dites pour quelle raison. Mais alors là, c'est encore plus précis, hein, c'est la prostitution au Moyen-Âge en midi toulousain, comme s'il y avait une spécificité. Il y en a une ?
Alors tout à fait, il y a une spécificité, alors pas sur le midi toulousain en tant que tel. Alors qu'est-ce qu'on entend par midi toulousain ? Déjà, c'est la région qui ressemble à notre ex-région Midi-Pyrénées, c'est-à-dire une zone qui va entre 100 et 150 km autour de Toulouse. Il y a une spécificité en fait en Occident, donc en Europe, hein, on dit aujourd'hui, dans le sud de l'Occident, où la prostitution va être organisée de manière beaucoup plus accentuée, c'est-à-dire qu'elle va faire l'objet d'un encadrement strict de la part des pouvoirs urbains. Et donc, j'ai voulu travailler sur le midi toulousain parce qu'il y avait cette organisation-là qui est liée à l'organisation politique des villes du sud de la France et aussi d'Italie et d'Espagne, puisqu'on a à cette époque, hein, à la fin du Moyen-Âge, des consulats qui vont se développer avec, à Toulouse, des fameux capitouls qui vont siéger à cette époque.
Voilà, donc vous le dites, on va découvrir et on va rentrer dans l'ouvrage plus spécifiquement et puis dans notre thème, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, hein, ce mot organisation, quand vous la collez à prostitution, ça peut étonner, mais de fait, on le découvre, et on le découvre dans votre livre, hein, la particularité de la prostitution médiévale réside dans la manière dont elle est gérée par les autorités. Hein. Et alors, on peut déceler à peu près trois temps, on va prendre les étapes et les choses de façon chronologique, trois temps de la prostitution, cela va d'une forme de tolérance de plus en plus grande, ça c'est au 12-13e, jusqu'à une forme d'âge d'or je ne sais pas si on peut en parler comme oui, ça, au 15e, à un rejet ensuite au 16e siècle. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui explique d'abord cette tolérance qui va s'amorcer autour du 12-13e, tolérance envers la sexualité, donc extra-conjugale? Il faut quand même rappeler qu'on sort, vous allez le faire mieux que moi, hein, on sort tout juste du règne de Saint-Louis. Louis IX, très hostile au départ, très religieux, ça on le sait, très hostile à la prostitution. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, progressivement peut-être, on relâche l'emprise?
Alors tout à fait, Saint-Louis hein, a cherché à encadrer la prostitution au travers de deux ordonnances, donc 1254 et 1256, où il va chercher à chasser les prostituées d'abord des villes, et puis en fait se rendre compte que c'est impossible, et donc de certains espaces de la ville dits honnêtes. Qu'est-ce qui se passe au XIIe, XIIIe siècle? En fait, on est à une époque où... il y a un essor urbain important, donc une population urbaine qui va fortement augmenter avec un développement économique des villes. Les villes vont retrouver leur pouvoir politique, leur pouvoir économique qui était autrefois parti plutôt à la campagne. Et il va y avoir une nécessité d'organiser cette prostitution. Pourquoi ? Parce que vous avez une population masculine qui arrive en nombre dans les villes et que, eh bien, de fait, la prostitution va prospérer dans ces villes. Et donc, il y a déjà cette nécessité-là. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'autour des 12e, 13e siècle, on est après la réforme grégorienne. L'Église, à travers des théologiens, va chercher à se questionner sur les questions de sexualité. Et donc, dans nos sources, on va retrouver de nombreux textes, notamment de Thomas d'Aquin, qui vont se questionner sur est-ce que l'argent qui est récolté par les prostituées peut être accepté par l'Église ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que se prostituer est un problème ou pas ? Et donc, on va aboutir à un discours qui revient, en fait, au discours des pères de l'Église, et notamment de saint Augustin,
et oui,
qui dit que la prostitution est un mal nécessaire. Hein, donc saint Augustin, c'est chasse les passions du palais. Non, qu'est-ce que c'était ? Je me souviens plus. Pardon. Chasse les prostituées du palais et les passions troubleront tout. C'est-à-dire que si on n'encadre pas et si on n'accepte pas qu'on sacrifie une catégorie de femmes pour qu'elles assouvissent le désir de certains hommes, qui est considéré comme à cette époque naturel, eh bien...
C'est une valve de sécurité.
Voilà,
quoi.
Exactement. Mmh. Voilà. Et le mal, en tout cas la vénalité, va se propager dans l'ensemble de la ville, et ça, c'est un problème. Et ça, l'Église veut le combattre. Et donc, les pouvoirs civils, hein, les villes et la royauté vont accompagner ce discours de l'Église en encadrant au fur et à mesure la prostitution. Au début, ça va passer par la restriction de l'adultère, la restriction du viol, au travers des coutumes des villes qui vont dire, pour telle personne qui va violer une femme vierge, qui va violer une femme mariée, telle amende. Et on voit que la prostitution est toujours moins réprimandée, et petit à petit, on va aboutir au XIVe siècle à un encadrement plus concret de la prostitution.
Et alors, l'encadrement du XIVe siècle, hein, ça va se traduire par une institutionnalisation de la prostitution avec la création de ce qu'on va appeler le prostibulum publicum. En fait, ce sont des maisons closes, en fait, des bordels publics. Et cette pratique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en préambule de notre entretien, c'est une pratique qui est plus prégnante dans le sud qu'ailleurs, où la prostitution, elle, va rester d'ordre privé. Quelle raison à cela ? Pourquoi est-ce qu'on institutionnalise comme ça la prostitution ?
Alors, on va...
C'est préserver les villes de la vénalité.
Exactement.
C'est quelque chose de cet ordre-là ?
C'est ça. On va construire donc des bordels publics. Hein, on ne parle pas de maisons closes parce que c'est plutôt le terme dédié au XIXe siècle. On va construire des maisons de prostitution parce qu'on va chercher à ce que la vénalité, à ce que la sexualité extra-conjugale soit cantonnée en un seul espace, dans une maison, dans la ville, et pour éviter qu'elle se propage. Bon, c'est un échec total, hein, puisque...
On le verra après.
Voilà, on le verra après, d'accord. Donc je ne...
le suspense.
Ok, très bien.
Quel est le rôle des capitouls dans l'organisation de ces lieux ?
Alors, les capitouls, ils vont acheter une maison ou la faire construire, et ensuite, ils vont léguer la gestion de ce bordel, en fait, hein, puisque, bien sûr, ce ne sont pas des capitouls qui vont faire la sécurité à l'entrée du bordel public à un tenancier qui va acheter le droit de tirer des bénéfices et de s'occuper du bordel chaque année. Donc, il va les délivrer aux capitouls, et les capitouls vont s'occuper des réparations, payer les réparations, s'occuper de la sécurité et du bâtiment. Voilà.
Et alors, il y a les prostituées, je lisais ça dans votre livre, hein, paient 5 sous tournois à la municipalité pour avoir le droit d'exercer à la grande abbaye. Parce qu'il faut le dire aussi, on va les situer un petit peu ces bordels publics dans Toulouse et puis ailleurs, hein, parce que même les petites villes en ont, hein, des bordels.
Tout à fait, oui.
Même les petites villes. Et alors, ils ont des noms un peu curieux, et notamment à connotation religieuse.
Voilà. Alors, à Toulouse, on a 2 bordels publics qui se sont succédés. Le premier, c'est la grande abbaye, qui se situait alors à la porte Lascrosse. Donc, vous avez le boulevard Lascrosse aujourd'hui, donc près du métro qu'on pense Caffarelien. Donc ça, c'est le premier bordel. Et puis quand on va reconstruire les murailles, puisqu'on est au bord des murailles de la ville, on est vraiment à la frontière près de l'enceinte. Hein. Quand ces murailles vont être reconstruites, il va falloir le déplacer, le détruire. Et donc les capitouls vont faire le tour de la ville pour chercher quel est le lieu le plus approprié pour installer ce bordel. Et en fait, ils n'en trouvent pas, puisqu'il y a des espaces honnêtes partout et que c'est compliqué parce qu'ici, il y a une église, ici, il y a une école, ici, il y a des gens honnêtes. Et donc, ça dure quand même 3 ans, hein, cette histoire. Et donc, on décide de le déplacer juste à côté du bâtiment à la municipalité. Alors, ils étaient situés, ce n'est pas le Capitole, hein, le Capitole n'existait pas, mais juste à côté, vers le square Charles de Gaulle. Et donc, on l'installe rue du Pré-Montardy, donc à côté de l'actuelle American Cosmographe.
Et alors, cette institutionnalisation de la prostitution ne fait pas moins de ces prostituées des femmes tout de même déconsidérées. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont des femmes intégrées dans la société, elles sont même parfois frappées d'interdits.
Oui,
alors alimentaires notamment.
Oui, c'est vrai. Dans certaines petites villes, notamment à Saint-Antonin-Nobleval, les prostituées n'ont pas le droit de toucher de la nourriture lors des marchés, puisque on considère qu'elles vont souiller la nourriture et la viande. Les prostituées donc sont considérées comme des femmes de mauvaise vie. À ce titre-là, elles bénéficient de moins de droits, notamment de droits juridiques. Elles n'ont pas le droit de témoigner. Elles ne peuvent pas porter plainte. Ou en tout cas, il y a une grosse différence en fait entre les prostituées qui n'exercent pas dans le bordel public et les prostituées qui exercent dans le bordel public, qui vont en fait être des sortes de fonctionnaires et être plus protégées. Notamment en cas de viol, elles auront droit de porter plainte, alors que ce n'est pas le cas des autres femmes. Si vous êtes considérée comme une femme de mauvaise vie au Moyen-Âge, vous n'avez plus le droit de témoigner, vous n'avez plus le droit de vous plaindre et vous pouvez être l'objet de violence.
Alors, on ne les appelait pas les prostituées à l'époque. Hein. C'était les femmes amoureuses et publiques, ou les femmes,
voilà,
de mauvaise vie.
Exactement.
Les femmes de mauvaise vie, les clients de ces femmes.
Alors, ils sont très variés. Ce sont des personnes normales, en fait. Hein. On peut trouver un boulanger, un poissonnier. On a quelques références. C'est très difficile, hein, par contre, hein, vu qu'on est sur un temps très, très long et les sources n'ont pas été toutes conservées. Mais on a des personnes lambda qui vont fréquenter le bordel public et en fonction, en fait, des lieux de prostitution, puisque si vous êtes sur un bordel privé, il peut y avoir des bordels plus huppés qui vont être dédiés à des populations notables, notamment puisqu'on a le Parlement de Toulouse, hein, qui s'installe aussi à ce moment-là, avec des clients peut-être un peu plus riches. Donc voilà, on a en fonction des lieux, on a aussi beaucoup d'étudiants et quelques clercs qui fréquentent le bordel.
Alors vous avez commencé à nous le dire, hein, cette institutionnalisation de la prostitution à travers ces bordels publics, ça n'a pas marché et on va finir par se retourner contre cette institutionnalisation et même les rejeter. Pour quelles raisons ? L'Église devient moins tolérante ?
Alors au XVIe siècle en fait, donc la fin de l'institutionnalisation de la prostitution, c'est XVIe siècle, 1561, Édit d'Orléans, Édit royal qui ordonne la fermeture de tous les bordels publics du royaume. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a un changement de paradigme, on a un changement de situation, notamment vis-à-vis du statut des femmes. C'est-à-dire que autrefois, au Moyen-Âge, on acceptait que les femmes travaillent, qu'elles sortent, etc. Et là, on va avoir un resserrement des mœurs de la part de l'Église qui va remettre les femmes au foyer. On va retrouver aussi ce qui était toléré sur cette sexualité extra-conjugale qui était encadrée ne peut plus l'être. Voilà. Donc, on va avoir un resserrement des mœurs, tout simplement.
Rien à voir avec la syphilis qui fait son apparition
non,
à ce moment-là.
Non, rien à voir à la syphilis, puisqu'à cette époque-là, on ne connaît pas bien. Alors, la syphilis apparaît à cette époque-là, mais on ne connaît pas les modalités de transmission de la maladie. Donc, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui est lié à un changement de mentalité, en fait, et ce qui va s'ouvrir sur l'époque moderne où ce genre de pratique n'est plus du tout accepté, alors qu'elle l'était à la fin du Moyen-Âge.
Et vous avez même un chapitre qui s'intitule Éradiquer le stupre. Hein, donc, tous les bordels du Midi Toulousain vont être fermés. fermé dans les années 1550. À l'époque, on est sous Henri II. Alors, les maisons closes ont été définitivement fermées en France en 1946. Ça veut dire qu'elles ont été réouvertes à un moment donné. À quel moment ?
Voilà, elles ont été réouvertes, en fait, pour les maisons closes du 19e siècle. Je ne me souviens plus exactement de la date. Où là, on a une volonté d'ouvrir des bordels dans un but prophylactique, c'est-à-dire pour lutter contre la syphilis et encadrer la sexualité.
Ah, voilà. C'est fou.
Ouais. Voilà. Mais elles ont réouvert, en fait, à l'époque contemporaine et pendant toute l'époque moderne, donc c'est-à-dire donc du 16e siècle au 18e siècle, on a juste simplement une prostitution illicite qui va, comme aujourd'hui en France, hein, qui va se développer de manière illégale.
Allez, si j'ai encore le temps, 30 secondes, un dernier mot, Agathe Roby, on sort du livre. Vous êtes par ailleurs conseillère municipale à Toulouse, hein, élue France Insoumise. Comment cette étude éclaire votre regard sur notre façon aujourd'hui de traiter la prostitution ?
Je pense, alors c'est très difficile parce que bon, je dissocie beaucoup hein, mon travail de chercheur et mon travail, mon activité de citoyenne. Ce qui peut aider dans mon travail, c'est que, et ce qu'on se rend compte quand on lit ce livre, c'est que la prostitution, elle n'a pas de réalité concrète. Elle n'en a pas parce qu'il y a tellement de pratiques différentes qu'on met sous le terme prostitution que c'est un objet vraiment très hétéroclite. Et en fait, c'est le cas aussi aujourd'hui. Et le problème, moi, je pense, dans toutes les politiques qui sont menées, que ce soit à Toulouse avec les arrêtés anti prostitution ou à l'échelle de l'État, c'est qu'on essaie de trouver, de mettre une solution, de légiférer sur la prostitution de matière générale, alors que ça n'a pas de réalité concrète.
Merci beaucoup Agathe Roby, un grand merci, bravo pour ce livre, je recommande sa lecture, c'est aux éditions Loubatière, La prostitution au Moyen-Âge, le commerce charnel en midi toulousain, du 13 au 16e siècle, à lire.